carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Le symbolisme, deuxième partie. Le courant symboliste à travers l'Europe. En compagnie toujours de Michael Gibson, l'auteur d'un imposant ouvrage intitulé « Le symbolisme » chez Taschen, nous allons essayer dans ce deuxième volet de l'émission de cerner ce vaste et complexe mouvement qui a fortement influencé les courants artistiques en Europe depuis le milieu du XIXe siècle. Michael Gibson, à nouveau bonjour et bienvenue à Canal Academy.
Bonjour Christa Leuc, bonjour.
À la fin de notre premier entretien, vous avez laissé entendre que l'art symboliste est surtout apparu dans les parties catholiques du monde industriel.
C'est vrai, le symbolisme apparaît le plus vivace dans les pays catholiques situés à l'intérieur de ce que les historiens ont appelé le polygone de la vapeur, c'est-à-dire la partie industrielle de l'Europe. Oui. Ce polygone peut être cerné par une ligne qui relierait les villes de Glasgow, Stockholm, Gdansk, Lodz, Łódź, en réalité.
En Pologne.
Pologne, Trieste, Florence et Barcelone. Donc on voit en gros qu'il s'agit de la France, la Belgique, l'Autriche, la République tchèque dans leur totalité, et puis quand même pour une partie de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de l'Espagne. Bon, alors il n'empêche que la forme et la tonalité symboliste a également influencé des régions résolument protestantes, dont l'Angleterre, les pays scandinaves, certaines parties de l'Allemagne protestante, ou même des pays encore peu industrialisés et de religion orthodoxe comme la Russie.
Oui, mais deux questions se posent toutefois. Pourquoi les pays industriels et pourquoi les pays catholiques ?
Oui, pourquoi les pays industriels ? Eh bien parce que ces pays ont été la scène de ce que j'ai appelé le grand chambardement.
Oui,
cette grande esquisse. Allusion à ce tableau de Henri de Groux. Donc le symbolisme a fait son apparition dans la foulée de la révolution industrielle et de l'exode rural. L'exode rural a été décisif dans la mesure où il a définitivement démaillé le tissu de la société rurale dont la ritualité jusqu'alors tenace avait entretenu les représentations chrétiennes du monde. Les jeunes paysans devenus ouvriers urbains se détournaient plus facilement d'un christianisme qui n'était plus intégré dans leur vie quotidienne.
Oui.
Et par exemple, l'Angélus de Millet
est
une relique
Angélus,
de ce monde perdu. Or, tout cela ne s'est produit que dans les pays industriels, pour les raisons évidentes de l'évolution des moyens de production. Et cette situation affecte la société dans son ensemble, dans la mesure où chacun est troublé quand même de constater que on ne partage plus les mêmes convictions.
Oui, et la deuxième question, pourquoi les pays catholiques alors ?
Eh bien, je l'attribuerais volontiers au plus grand rôle que la foi et le rituel catholique reconnaissent aux formes imagées et symboliques. Alors que le protestantisme, dans la mesure où il est permis de généraliser, dans la mesure où on peut généraliser, le protestantisme, c'est généralement méfié de l'image, a eu tendance à moraliser la foi. Donc il n'empêche que la forme symboliste se soit également propagée dans le monde protestant, pour des raisons très diverses d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, les effets du progrès scientifique et de l'industrialisation ont induit une perte de sens et de valeur dont se plaignaient surtout les personnes qui s'étaient montrées les plus sensibles aux apports symboliques du religieux. C'est pas bon, j'ai déjà cité à ce propos la complainte du poète symboliste Gustav Kahn. On sent trop que ces gens ne marchent que pour chercher des ressources et la source des rêves se tarit.
Oui, justement, vous mentionnez Gustav Kahn, un poète français. Alors, quelle était justement la situation en France ?
Eh bien, la France, si vous vous souvenez, en cette époque-là, en cette fin de siècle, est un pays profondément divisé. D'une part, il y a ceux qui demeurent fidèles à la tradition catholique, et de l'autre, il y a ceux qui s'efforcent de briser le pouvoir de l'Église pour créer une société laïque. Et c'était vraiment le moment, vers 1900-1904, c'était le moment du grand conflit.
Oui, oui.
Et en matière d'art, les partisans de la laïcité favorisaient le réalisme et la représentation fidèle de la nature. Vous vous souvenez probablement de ce que j'ai dit de la brouille entre Gauguin et Pissarro.
Oui.
Gauguin n'était pas un peintre symboliste, mais il a traité un ou deux sujets qu'on pouvait supposer symbolistes, ce qui lui a attiré les foudres de son ancien ami. On pourrait également évoquer Courbet à ce propos. Bon, mais le réalisme français est l'adversaire militant du symbolisme.
l'adversaire militant du symbolisme.
Oui, voilà, mais...
Tellement changé, peut-être. Le militantisme français, laïque, a perduré.
Ça affecte le monde esthétique également.
Absolument.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'en Angleterre, c'était le contraire.
Oui.
C'est-à-dire, le réalisme était à la mode, mais pour des motifs diamétralement opposés. Il y a John Ruskin, notamment, le grand critique d'art, l'historien d'art, le théoricien, et qui faisait aussi une bonne peinture. Il souhaitait la plus grande précision dans la représentation de la nature. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est seulement ainsi que l'homme pouvait bien honorer son créateur.
Voilà, deux visions du monde.
Alors on fait la même chose pour des raisons absolument différentes. Oui. Bon, les symbolistes, alors, par contraste, ne manifestaient aucun intérêt particulier pour la nature. Et Joris Karl Huysmans, que j'ai déjà cité, nous offre même une jolie satire du point de vue symboliste en faisant parler son esthète décadent, purement imaginaire, des esseintes.
Oui, son héros.
Comme il le disait, écrit-il, la nature a fait son temps et l'a définitivement lassée par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels, l'attentive patience des raffinés. Au fond, quelle platitude de spécialiste confiné dans sa partie, quel monotone magasin de prairies et d'arbres, quelle banale agence de montagnes et de mers. À n'en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a maintenant usé la débonnaire admiration des vrais artistes et le moment est venu où il s'agit de la remplacer autant que faire se pourra par l'artifice.
Voilà, on devrait mettre ça dans toutes les agences de voyage pour faire fuir le tourisme de masse. Donc,
il se veut décadent plutôt que symboliste.
Ah oui, oui. D'ailleurs, au fond, quelle est la différence entre décadent et symboliste ?
Jean Moréas disait qu'en gros, il n'y en avait pas. Mais si on veut, on peut dire que le décadent se réclame d'une époque déchue. La décadence se présente comme le refus d'un progrès qui n'en serait pas un, à son avis. La société tout entière emboîte allègrement le pas dans cette marche triomphale du progrès. Eh bien, tant pis pour elle. Le décadent, lui, restera en arrière. Il se repliera sur lui-même en rejetant le savoir exotérique de la science et il cherchera une consolation dans une recherche ésotérique plus ou moins sérieuse. Bon, tout cela, avec la mode qui s'en mêle, a fait du dandy une figure symboliste, par exemple. Parce ce dandy dont Disraeli disait qu'il était le prince d'un royaume imaginaire.
Donc, dans le fond, d'après ce que vous dites, ce serait donc quand même bien des doux rêveurs.
Sans doute, animés par une conscience mélancolique que le vieux monde familier s'en va, un sentiment de deuil qu'on retrouve dans le tableau d'Henri de Gros, le grand chambardement où toute une population quitte un paysage ravagé et part en exode en passant à côté d'un grand crucifix renversé, pour le rappeler un peu. Bon, mais il suffit de feuilleter un recueil de poésie symboliste pour percevoir la tonalité dépressive de cette poésie en général. Les images récurrentes sont celles du crépuscule, de la pluie, de la ville morte, de l'eau, de la lune. C'est pas comme dans les vers que je peux vous citer de Georges Rodin Bach.
Oui, je vous en prie.
L'eau des anciens canaux est débile et mentale, si morne parmi les villes mortes, aussi dolente au point qu'elle semble mortelle. Pourquoi si nue et si déjà nulle? Et qu'a-t-elle tout à sa somnolence, à ses songes aigris, pour n'être ainsi plus qu'un traître miroir de givre où la lune elle-même a de la peine à vivre. C'est pas bon. L'eau.
C'est donc un poème de Georges Rodin Bach.
Et l'eau et la lune sont omniprésentes dans ses œuvres. Et cette eau nulle et déjà nue et déjà nulle qu'évoque Rodin Bach paraît figurer le monde spirituel ou imaginaire qui s'étiole de jour en jour.
Oui. Mais l'eau et la lune, ce sont tout à fait des symboles ou des analogies pour tout ce qui est féminin, comme tout ce qui est noir ou la forêt, etc.
Aussi, mais en l'occurrence, il me semble qu'il y a une antinomie entre le monde de l'action scientifiquement programmée et le monde du rêve qui a une connotation plus féminine.
Absolument, oui. D'ailleurs, je pense que vous en parlerez tout à l'heure de la femme.
Il faut quand même mentionner dans ce contexte que des poètes vraiment de taille, comme Rainer Maria Rilke, Georg Trapp, Trakl et Paul Celan se sont épanouis dans le climat du symbolisme. Bon, ils l'ont transformé. Et qu'un compositeur comme Claude Debussy, qu'on aime bien appeler un compositeur impressionniste, en fait, pour moi, c'est un compositeur symboliste plutôt.
Avec la mer.
Oui, notamment.
Donc vous venez d'évoquer cette ambiance dépressive, mais n'y a-t-il pas eu d'autres façons de réagir à cette crise de l'ère industrielle dont vous avez parlé ?
Oui, bien sûr. Enfin, il y a de nombreuses façons. Il y en a une qui est peut-être un peu anecdotique, mais n'est-ce pas, on peut dire que certains s'y complaisent, d'autres font de l'agitation idéologique et puis se collent, si on peut dire, une arche métaphysique. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu anecdotique. C'est le cas des fondateurs de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. La rose avec une petite croix et le mot croix. L'ordre kabbalistique de la Rose-Croix et puis du salon artistique que cet ordre inaugura. Alors c'est un mouvement qui a été créé en 1892 par le romancier et publiciste Joséphin Péladan, qui était l'auteur d'un roman à succès, Le Vice suprême, et qui essayait de camper un personnage en cultivant sa barbe et en se faisant appeler Sar Merodak Péladan, à la manière d'un mage indien. Mais enfin, il souhaitait offrir un cadre théorique et mystique à l'art symboliste de façon plus ou moins amateur, on dira.
C'était donc le fondateur de l'ordre kabbalistique et de la Rose-Croix.
Un des fondateurs de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. Mmh. Et Huysmans, pour revenir à lui, avec son esprit habituel, a épinglé le personnage qu'il qualifie de mage de Camelot et qu'il accuse d'exploiter le goût d'un public que le positivisme harasse. Mmh. Alors, au-delà de l'anecdote, tout cela est symptomatique tout de même de l'époque. Et quant au salon de Péladan, bon, il n'a vécu que 6 ans et s'il a un mérite, c'est sans doute d'avoir réuni à Paris quelques œuvres de qualité venues des quatre coins d'Europe. Mais enfin, il faut bien le souligner, le symbolisme nous a donné des artistes aussi d'une réelle envergure, à commencer par Gustave Moreau. Bon, Moreau, c'est quelqu'un qui, tout en traitant des sujets mythologiques, a pris ses distances par rapport au lycée réaliste du style qu'on appelle pompier. Puis, outre des figures comme Orphée ou Édipe et le Sphinx, il s'est attaché à plusieurs reprises à celle de Salomé, qu'il montre richement caparaçonnée de dentelles et de bijoux et hantée par une vision de la tête décapitée de Jean-Baptiste. C'est pas bon. Ce personnage fait partie du malaise de l'époque aussi.
Tiens, je vous propose une pause pour laisser derrière nous un peu cette période dépressive. Et pourquoi ne pas écouter un extrait de Salomé de Richard Strauss ? Je crois que ça viendrait tout à fait à propos. Nous sommes toujours en compagnie de Michael Francis Gibson et son livre « Le symbolisme » paru chez Taschen, et Michael Gibson qui nous éclaire sur le courant symboliste à travers l'Europe. Donc vous venez d'évoquer, avant la pause, cette ambiance un peu presque maladive, dépressive de ce fin de siècle. Alors sous quelle forme ce malaise se traduit-il directement dans l'art ?
Eh bien, justement, j'ai été frappé pour ma part par l'apparition à cette époque de la figure de la femme mauvaise ou destructrice en tant que thème récurrent de l'art, n'est-ce pas ? En fait, on voit au fond une métamorphose générale de la femme qui devient un être plus qu'humain, plus qu'humaine, tantôt idéale, tantôt néfaste. Bon, alors la femme idéale, pour sa part, elle est omniprésente à l'époque, dans l'art symboliste, elle est vaporeuse, elle est angélique, elle plane dans le ciel comme un ange, etc. Mais quant à la femme mauvaise, on la rencontre, comme je l'ai dit, bon, dans l'œuvre de Gustave Moreau, mais aussi chez l'Allemand Franz von Stuck, qui l'a peint à plusieurs reprises, notamment dans une œuvre intitulée « Le péché », dans lequel le péché se manifeste sous l'aspect d'une femme au corps admirable, aux cheveux noirs, au regard de braise, et qui porte drapé autour de son cou un énorme serpent noir, et tous les deux dévisagent le spectateur de façon inquiétante. Ça me fait penser aussi à une gravure d'un autre Allemand, Otto Greiner, intitulée « Le diable montrant la femme au peuple ». C'est un petit côté comique pour moi, parce que c'est savoureux dans la mesure où le peuple est composé que de mâles hébétés et que la femme que le diable est en train d'exhiber a des allures de mégère sous-alimentée. L'œuvre reprend quand même bon, un lieu commun, vieux comme le monde, qui n'a d'ailleurs rien de biblique en l'occurrence, puisque la femme n'y apparaît non pas comme une créature de Dieu, mais comme une création du diable.
Bon, la mauvaise femme.
La mauvaise femme, oui. En Angleterre, donc, la veine est beaucoup plus légère et satirique, avec la plume acide de Aubrey Beardsley, qui nous campe des Salomés singulièrement perverses, et en compagnie d'autres figures issues du drame d'Oscar Wilde dont nous avons parlé.
Bon, assez érotique, hein, certains dessins de Beardsley.
Oui, c'est coquin, disons.
Très coquin.
C'est très coquin. Et puis nous avons le romancier et dessinateur polonais Bruno Schulz, qui lui imagine une femme dominatrice qui repousse l'artiste lui-même d'ailleurs du pied alors qu'il s'humilie devant elle. C'est un thème.
C'est drôle, mais j'aurais cru que Bruno Schulz figurait parmi plutôt les expressionnistes.
Écoutez, il est encore dans cette période, plus ou moins. Parce que c'est,
entre deux.
C'est très fluide, toutes ces catégorisations. Est-ce pas Munch aussi
Bien sûr, on
le catégorise comme un expressionniste. Au fond, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement du symbolisme, on a recasé un certain nombre d'artistes éminents dans d'autres catégories pour les conserver en bonne compagnie. Voilà. Je voulais encore mentionner Alfred Kubin, dont on a parlé déjà.
L'Autrichien, oui.
Oui, qui a inventé des figures féminines de cauchemar, comme ça. Par exemple, il y a un dessin des années 1910-1900, intitulé « L'œuf », qui montre une figure féminine debout devant une fosse, avec un ventre qui est un immense œuf blanc, et le reste du corps est un squelette. Donc il y a un grand nombre de ces œuvres de Kubin qui sont consacrées à une terrifiante conjonction de la sexualité et de la mort.
Oui, le fameux Eros et Thanatos. Alors comment interprétez-vous l'apparition de ce thème juste à cette époque symboliste ?
Bon, écoutez, pour moi, cela reflète une exacerbation du puritanisme que l'on aurait tort d'attribuer à la seule influence de la religion chrétienne. Il y a eu des périodes du christianisme qui n'étaient pas du tout bégueules, et je pense que l'explication serait insuffisante. À mon avis, ce genre de pathologie culturelle apparaît régulièrement aux époques de grandes mutations et pour des raisons qu'on peut comprendre. On le voit, on le constate à la fin de l'Empire romain, pendant la phase de déclin, à la suite des révolutions, la révolution française, la révolution soviétique. D'ailleurs, les révolutionnaires sont souvent bien étrangement prudes, et aussi, pour notre affaire, dans la foulée de la révolution industrielle. À quoi attribuer ça ? Eh bien, je l'attribuerais volontiers à la perte des repères conventionnels qui permettaient de gérer les rapports entre hommes et femmes. Parce qu'il y a toujours une structure conventionnelle, n'est-ce pas, des rapports. D'ailleurs, aux États-Unis, où il y a trop de cultures diverses, il y a souvent des malentendus. Quand un homme fait une avance à une femme, comment elle répond, etc. Ça finit par des procès en Amérique, parce qu'il n'y a pas de code
conventionnel. Enfin, historiquement conventionnel.
On sait que quand une femme regarde d'une certaine façon, ça veut dire telle chose, mais ça, c'est culturel, n'est-ce pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le thème de la femme mauvaise ou destructrice qui apparaît dans l'art symboliste est lui-même le reflet de l'effondrement de ces codes. Donc, nous restons dans l'idée, n'est-ce pas, que l'homme est une institution symbolique. Et dans la mesure où il a perdu les codes, il se sent perdu.
Oui, et vous avez dit que le symbolisme apparaît d'abord donc, dans les pays catholiques. Et maintenant, qu'en est-il des pays protestants, comme les choses se passent, par exemple, dans les pays scandinaves ? parce que vous avez parlé d'Edvard Munch tout à l'heure, et lui aussi, il me semble, il a eu quelques difficultés avec les femmes.
Il a eu, c'est vrai, oui. Bon, mais l'art des pays protestants, bon, en Allemagne et en Scandinavie notamment, était plutôt porté vers un certain réalisme, parfois méditatif, parfois édifiant, souvent très idéalisé. Et le Norvégien Edvard Munch, lui, était une exception dans son propre pays. N'est-ce pas ? Il a souvent abordé le sujet de la femme destructrice aux problématiques, c'est vrai. Sa vie amoureuse elle-même était tumultueuse. Et à deux reprises, une femme est allée jusqu'à brandir un pistolet contre lui. Et il se blessait lui-même blessé un jour en lui arrachant l'arme. Donc, il y avait du tourment. Mais donc, dans son œuvre, la femme est tour à tour le vampire qui suce le sang de l'homme, la source des remords, des angoissantes passions, des douleurs, des obsessions. Mais elle est surtout la madone que l'on adore mais qu'on ne peut pas atteindre. Et c'est le sujet d'une lithographie où on voit une superbe brune qui a l'air d'être sur le point de s'offrir, mais que se passe-t-il ? Ben, autour, il y a une frise, et dans cette frise courent des frétillants spermatozoïdes. Et d'un côté, en bas à gauche, il y a une sorte de petit embryon, de petit être humain, de petit mâle embryonnaire qui lève des yeux pathétiques vers elle. C'est une vision de l'impuissance et de l'inatteignabilité, si on peut dire, de la femme.
Oui, mais il a fait toute une série de tableaux sur la Madone, enfin sur le sujet,
oui,
sur le thème de la Madone.
Le thème, en tout cas, est repris à plusieurs fois. Et cette thématique dans l'œuvre de Munch recoupe peut-être parfois celle des symbolistes, mais ces sources ne sont pas vraiment à chercher dans le symbolisme, mais plutôt dans la névrose de l'artiste lui-même, oui, enraciné dans le calvinisme norvégien et alors sans doute pollinisé par un séjour qu'il a fait à Paris à l'âge de 22 ans et qu'il a confronté au climat décadent.
Mmh, oui.
Donc, alors ensuite, il y a eu...
Le gay Paris.
Oui, si on veut. Mais alors, à 45 ans, il a souffert d'une crise de dépression grave qui l'a contraint à un séjour dans un hôpital psychiatrique danois. Après quoi, il l'a avoué un jour à un ami, il a renoncé aux femmes et à l'alcool. Et à partir de là, son art s'est fait plutôt expressionniste, explicitement expressionniste, et il s'est consacré exclusivement au sujet de la vie quotidienne.
Mmh. Voilà donc pour Edvard Munch. Mais il y a une autre terre où le symbolisme a de fortes racines, la Pologne.
Oui, la Pologne. Bon, la Pologne aussi a été influencée par le symbolisme, c'est vrai. Et il serait peut-être même utile d'en parler un peu plus en détail dans la mesure où son art est moins connu en France. Les artistes polonais ont eu à endosser les problèmes d'un pays, d'une Pologne qui n'existait pas en droit. N'est-ce pas ? Il a été divisé entre les trois grandes puissances voisines, l'Allemagne, la Russie et l'Autriche. Et deux d'entre elles, l'Allemagne et la Russie, légiféraient en vue d'anéantir la langue polonaise et la religion catholique. On voulait les convertir, tous ces Polonais, au protestantisme, à l'orthodoxie, leur faire parler le russe ou l'allemand. Enfin, ça a été très conflictuel et dur.
Mais c'est un pays qui a connu beaucoup, beaucoup de souffrances.
Même à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, Guillaume II était encore en train d'imposer des lois pour soumettre ce peuple. Donc, que se passe-t-il dans ce contexte ? Il n'y a pas de gouvernement polonais, proprement dit. Et on se tourne vers les artistes. Toute l'attente qu'on a, on l'a fait reposer sur les épaules des artistes qui sont censés être un gouvernement des âmes. C'est le cas pour un peintre comme Jacek Malczewski qui a eu une exposition à Beaubourg. Certains critiques français l'ont accusé de nationalisme, mais je crois que c'est simplement par ignorance de l'histoire, du contexte historique. On ne peut pas être nationaliste quand on n'a pas de pays. Un Breton n'est pas nationaliste, oui. ou un Basque, oui, ne peut pas l'appeler un nationaliste. Il a certains besoins qu'il exprime, mais... Malczewski a été, en ce sens, une figure typique de l'art polonais de son époque. Il a peint de nombreux autoportraits dans lesquels il se campe tantôt comme une incarnation de la Pologne, tantôt comme une figure christique. Et puis, il a créé des scènes historiques et allégoriques et mythologiques, d'une grande originalité d'ailleurs, et puis quelques superbes paysages. Et on ne trouve pas chez lui le caractère dépressif que j'ai évoqué il y a un instant. Les femmes qu'il peint sont féminines, elles sont charnelles, elles sont parfois imposantes, mais elles ne sont jamais mauvaises ou destructrices. Et pour moi, significativement, il semble que c'est parce que le tissu rural était demeuré intact encore en Pologne, n'est-ce pas ? Et les codes de relations entre les sexes n'avaient pas encore été ébranlés, du moins dans les campagnes, comme elles l'avaient été dans les villes. Donc il est par ailleurs intéressant de noter que plusieurs intellectuels et artistes parmi les plus éminents, dont Stanisław Wyspiański, qui est sans doute la grande figure artistique et littéraire de son époque, épousèrent des paysannes pour des raisons idéologiques.
Ah oui, oui. Ben écoutez, c'est vraiment fort intéressant parce qu'en effet, l'art en Pologne est très très peu connu et particulièrement cette période qui est donc, comme nous avons dit tout à l'heure, vraiment une période très douloureuse. Mais peut-être est-ce maintenant le moment d'entreprendre une sorte de survol panoramique de la scène symboliste en général pour en évoquer quelques figures importantes de ce mouvement. Il y a tellement d'artistes, il faut dire, que le choix est en effet difficile.
J'ai compté, il y a 120 artistes mentionnés dans les notices biographiques de mon livre sur le symbolisme. Mais je me sentirais vraiment fautif de ne pas avoir évoqué Odilon Redon.
Bien sûr.
Dont l'œuvre débute par d'admirables et étranges dessins en noir et blanc. Et qui s'est ensuite épanoui dans un merveilleux chatoiement de couleurs. Il avait une thématique fantastique qui est au fond la contrepartie tendre des scènes macabres de Koubine. On voit, par exemple, un œil qui flotte dans les hauteurs d'une vaste salle et qui observe les gens qui passent. Il y a une araignée géante et velue dotée d'un visage humain. Il y a un cyclope au sourire niais. Il y a quelques sujets comme ça qu'on voit dans ses œuvres en noir et blanc. Et puis, pour ce qui est de ses peintures, qui sont vraiment d'une vivacité de couleurs inouïes, il y en a une en particulier qui est vraiment somptueuse, qui représente les chevaux blancs du soleil qui, dans une éblouissante lumière, traversent un ciel bleu en survolant le serpent python noir qui se tord dans l'abîme.
Oui, oui. Ça, c'était donc au sujet d'Odilon Redon. Oui. Mais pour parler d'un autre pays très, très marqué par l'art symboliste, la Belgique, vous avez sûrement quelques artistes en tête.
Oui, bien sûr. J'ai déjà parlé de ce grand dandy qui était Fernand Knopf, dont l'une des œuvres inoubliables montre une place brugeoise abandonnée que la mer envahit doucement. C'est très atmosphérique et étrange. Puis William de Gouve-Deninck, qui a peint entre autres une œuvre qui s'appelle « La maison aveugle », une scène nocturne avec une maison à la façade orange, aux fenêtres éclairées, et qui contraste avec la noirceur nocturne et étoilée qui l'entoure. Bon, il s'agit d'une œuvre mystérieuse qui a peut-être influencé Magritte.
Oui, parce qu'on y pense, oui.
Oui. Et puis, il faudrait encore citer Léon Spilliard, qui a créé des scènes chargées d'un sentiment d'angoisse digne de Hitchcock. Félicien Rops, qui a joué avec beaucoup de talent et d'humour à la perversité satirique. Et enfin, il y a la figure vraiment exceptionnelle de James Ensor, qui était aussi une figure solitaire. C'est le propre, une des marques du symbolisme, c'est cet isolement. Et il a peint
dont
énormément.
Vous avez parlé dans la première partie, cette opposition, cette contradiction apparente entre l'imaginaire collectif et le besoin de se retirer dans un isolement rêveur, solitaire.
C'est qui est une marque de l'époque symboliste. Et un sort qui a fait beaucoup de tableaux représentant des masques. Et puis, il y a évidemment son plus grand travail, sa peinture peut-être la plus célèbre, qui est l'entrée triomphale du Christ à Bruxelles, qui est une scène de foule dans laquelle il est un petit Christ perdu quelque part au milieu de débordements d'enthousiasme populaire, de vulgarité appuyée, n'est-ce pas ? Il y a des masques qui défilent, il y a une bannière qui dit « Vive la sociale », il y a tout le côté populaire du quartier des Marolles de Bruxelles qui qui était un monde très savoureux, qui probablement est en train de disparaître peu à peu. Mais moi, je me souviens encore d'avoir passé une nuit de Nouvel An dans un café marolien avec un ami. Et il y avait un homme avec une casquette qui était là avec une femme qui a entamé une conversation avec nous. Et puis, il nous a présenté la femme en disant « C'est ma femme, mais je la respecte ». C'était la tonalité populaire, mais
populaire
authentique.
En Belgique, oui. Oui,
bon, mais... donc, nous avons parlé un peu de la Belgique.
Oui, mais à ce propos, je voulais quand même rappeler à nos auditeurs que ce tableau dont vous venez de parler, donc de l'entrée du Christ à Bruxelles de James Ensor, ben, figurez-vous que nous l'avons évoqué avec Pierre Rosenberg de l'Académie française dans une de nos émissions, parce que ce tableau figure dans l'ouvrage de Pierre Rosenberg sur les 100 plus beaux tableaux aux États-Unis, et donc dont nous avons fait une émission il y a quelque temps.
Donc il vient d'être présenté sur cette antenne.
Oui, non, il est donc emblématique vraiment de cette époque.
Oui, oui. Et bon, ce qui nous
donc,
avons encore.
Ça, c'était pour la Belgique, et puis il y a
les pays germanophones.
Bien sûr, oui.
Bon, j'ai déjà mentionné Franz von Stuck, Gustav Klimt, Alfred Kubin, mais il ne faut pas oublier Arnold Böcklin.
Qui est suisse, je crois.
Qui est suisse, d'ailleurs, oui. Suisse alémanique, dont l'île des morts, n'est-ce pas, demeure tout à fait inoubliable, parce que chacun peut se souvenir probablement de cette silhouette blanche dressée dans une barque et vivement éclairée qui se détache contre les cyprès noirs de l'île des morts.
Oui.
Inspiré plus ou moins
célèbre,
par une île de vénitienne. Et puis, bon, la grande diversité du mouvement symboliste est encore illustrée en Lituanie par personnage singulier de Mykolajus Čiurlionis, qui a été à la fois peintre et compositeur, qui a créé des toiles abstraites ou semi-abstraites, géométriquement construites et mystiques. Et puis, il y avait en République tchèque, il y a Alphonse Mucha, comme on dit en France, qui devient un grand affichiste, justement, en France. Et puis, il y avait František Kupka, qui a été un des chefs de file de l'abstraction. Puis en Espagne, il y avait Antoni Gaudi, qui a laissé son empreinte sur Barcelone, qui a commencé à construire cette cathédrale de la Sainte Famille, qui n'est toujours pas terminée. Et puis, enfin, on continue le voyage. En Russie, il y a Mikhail Vroubel, qui était connu pour toute une série de toiles consacrée à la figure pathétique et tourmentée du démon de Lermontov, un poème très populaire de Lermontov, et qui, lui, Vroubel, a eu une vie dramatique parce qu'il a d'abord été interné dans un hôpital psychiatrique à l'âge de 36 ans. Il est devenu aveugle peu après et il est mort peu après ça encore. C'est une vie difficile, n'est-ce pas? Et puis nous avons évidemment Vassili Kandinsky et Kazimir Malevitch qui sont devenus qui a été parmi les pionniers de l'abstraction.
Et alors, mais qui, donc, avant, pouvaient être classés dans les symbolistes
Oui, parce qu'ils ont commencé leur carrière en peignant dans un style typiquement symboliste, avant de découvrir chacun de son côté qu'il était possible de donner libre cours aux formes et aux couleurs sans être représenter un sujet. Kandinsky qui raconte l'histoire frappante d'un jour, il rentre dans son atelier, il voit un tableau qu'il trouve formidable, il se demande mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que j'ai peint, et puis c'était un tableau qu'il avait posé à l'envers. Mais il s'est aperçu à ce moment-là qu'effectivement, en agençant les couleurs et les formes sur une toile, ça se tenait.
Oui.
Et bon, Malevitch, c'est une autre démarche. Bon, mais il y a une continuité, n'est-ce pas, dans tout ça. Et c'est également parmi les artistes symbolistes qu'on rencontre des esprits qui affirmaient l'absolue autonomie de l'art. Ça, c'est le cas de Oscar Wilde, n'est-ce pas, en Angleterre. Bon. Et il faut se dire qu'une affirmation comme celle de Wilde avait un sens tout particulier à cette époque-là et à cette société, parce que à cette époque, on voulait que l'art soit édifiant. Il y a un célèbre tableau de l'époque pré-raphaélite qui montre une jeune fille sur les genoux d'un monsieur qui est en train de jouer du piano. On comprend que c'est une fille de joie, mais que la chanson a réveillé en elle les souvenirs de sa pure enfance et qu'elle veut retourner chez elle. C'est un tableau édifiant.
Bon. Oui.
Donc, le modernisme a repris ce dogme de l'autonomie de l'art à son compte, en voulant que l'art, comme les mathématiques, soit un domaine à part, n'ayant aucun rapport avec le contexte dans lequel il apparaît. Nous sommes encore un peu, nous vivons un petit peu dans ça. Il y a de tout aujourd'hui, évidemment. Donc, on s'aperçoit qu'il existe malgré tout une réelle continuité à plusieurs points de vue entre cet art et le nôtre, une continuité qui est le plus souvent masquée par l'idée d'une rupture radicale et définitive, qui demeure quand même le mythe fondateur du modernisme.
Et donc c'est ainsi que le symbolisme aurait disparu ?
Oui, à dire, le symbolisme n'a jamais vraiment cessé d'exister. C'est pas si on y pense. Il perdure toujours. Très manifestement dans l'œuvre de certains poètes et même des dramaturges. Je pense à Samuel Beckett qui a fait une ou deux petites pièces qui sont vraiment des pures œuvres symbolistes.
Ah oui, lesquelles ?
Je ne me souviens plus du titre, mais c'est une scène où on voit trois femmes sur le théâtre et qui est très courte. Et à un moment donné, elles se tiennent la main et il y en a une qui dit « Je sens les bagues ». Et c'est tout. C'est vraiment une vignette très courte.
Oui.
C'est un tableau symboliste. À propos du théâtre,
oui.
Ça c'est vrai du théâtre, c'était également vrai de façon encore plus spectaculaire dans le cinéma. Quand on pense aux films somptueux et baroques de Fellini ou de Pasolini.
Oui, tout à fait, bien sûr. Oui.
Et puis, de façon un peu plus étonnante, on en retrouve les traces jusque dans Le Grand Vert de Marcel Duchamp, qui c'est vraiment une œuvre de référence contemporaine qui semblerait se situer aux antipodes du symbolisme.
C'est pas bon. Qui semblerait, oui.
Mais l'œuvre qui a une forme aussi sèche qu'une épure, un dessin d'ingénieur, qui est dans un esprit ironique, on pourrait même dire cynique ou si on veut nihiliste, paraît voisine quand même, par sa structure, des grandes machines symbolistes d'un Gustave Moreau.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce qu'il traite dans Le Grand Vert et dans Étant donné, c'est la femme inaccessible. Dans Le Grand Vert, c'est un diagramme. Il y a en haut le monde de la femme, séparé en dessous le monde de l'homme. Et toute la thématique, tout l'argumentaire, c'est qu'il est impossible de passer d'ici à là.
Mmh.
Et Étant donné, c'est une œuvre qui et derrière une porte de grange dans laquelle il y a deux petits œilletons qui ont été percés. Donc on est mis dans la position du voyeur. Le spectateur va coller ses yeux à ces œilletons. Et qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit une femme couchée qui a les jambes écartées, son sexe exposé à ses yeux et un paysage dans lequel coule une cascade. C'est la même chose.
Ah, purement symboliste, en effet. Oui.
C'est l'homme est là, et la femme est là-bas, et il ne peut pas y accéder.
Oui.
C'est tout de même une continuation de la réflexion sur les rapports entre les hommes et les femmes, qui, pour moi, est dans la foulée celle du symbolisme, qui était plus dans le domaine de la rhétorique, sauf avec Koubine, bien entendu.
Oui.
Alors, l'ironie, comme vous savez, n'est jamais tout à fait étrangère au symbolisme. L'ironie qu'on trouve chez Duchamp, notamment, et même si les œuvres...
Et chez James Ensor, d'ailleurs, aussi.
Et chez Ensor, oui, notamment. Même si les œuvres académiques et sentimentales étaient plus nombreuses. Mais on compte, on pense à des poètes comme Jules Laforgue, n'est-ce pas, avec son... Infini, montre donc tes papiers.
Oui, ce que nous avons vu dans la première partie de notre émission.
Oui, et puis Alfred Jarry qui marque une transition vers le nihilisme d'un Duchamp, mais qui reste tout de même un symboliste par son dandyisme et le caractère fantastique, fantasque de sa démarche. Bon, quand on peut penser aussi au surréalisme de Max Ernst, qui n'existerait pas sans le front symboliste, n'est-ce pas, enfin certaines de ses œuvres, et pas plus que la peinture métaphysique de Giorgio de Chirico. Et puis, enfin, l'idéal du rêve survit dans une étrange métamorphose dans les théories d'André Breton.
Donc, après tout ça, et comme nous arrivons malheureusement au terme de notre émission, est-il possible de tirer une sorte de conclusion à cette pérennité du symbolisme ?
Écoutez, je ne pense pas que la crise du mouvement, dont le mouvement symboliste a été l'expression, ait été résolue ou dépassée. Je dirais même que l'art du siècle qui a suivi la disparition de ce mouvement n'a jamais abandonné l'idée de résoudre cette crise, ou alors de la nier pour passer à autre chose, c'est vrai. Mais la difficulté demeure. Le grand chambardement est toujours avec nous.
Ah oui.
Nous vivons dans un monde qui se transforme à toute allure, alors que les images dont nous avons hérité, qui devraient nous permettre de mieux comprendre, d'interpréter le monde... Elle se rapporte à des situations qui n'ont à première vue plus grand-chose à voir avec les nôtres. Alors, ça donne le sentiment d'une coupure, non seulement avec le passé, mais avec nous-mêmes. Alors, pour ma part, je crois qu'il y a une continuité malgré tout, parce que nous nous posons toujours les mêmes questions et nous avons toujours les mêmes besoins. Et c'est de ces choses-là que l'art, d'une certaine façon, nous parle de façon indirecte. Le symbolisme demeure donc pertinent. Il nous permet de prendre la mesure de notre situation actuelle et tout en la mettant à distance.
Oui.
Parce que c'est seulement dans l'éloignement que les choses deviennent intelligibles. Et puis finalement, tant de ses œuvres nous enchantent, il ne faut pas l'oublier.
Absolument. D'ailleurs, quand nous regardons votre ouvrage avec toutes ces œuvres absolument fantastiques dans tous les sens du terme, nous ne pouvons en effet qu'être éblouis par tant de merveilles. Je rappelle donc à nos auditeurs, internautes, le titre de votre ouvrage, « Le symbolisme » publié par ta chaîne, en français, anglais, allemand et, me semble-t-il, en japonais aussi.
Oui, je crois bien, oui.
Donc un grand merci, Michael Gibson, de nous avoir éclairé avec tant de sagacité sur cette période symboliste dont beaucoup de facettes restent ou restaient jusqu'à ce jour assez peu connues. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, Christa Leuk.